Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une grande dame de la Syrie contemporaine que reçoit Franck Ferrand aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Alors que chaque jour apporte son lot d'horreur dans la guerre qui en ce moment ravage la Syrie, il m'a paru nécessaire, salutaire même, de recevoir Myriam Antaki, dont le nouvel ouvrage est une ode à la capitale syrienne. Cette capitale, c'est Damas, évidemment. Grâce à Myriam Antaki, nous allons essayer de retrouver les beautés de la véritable Syrie.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Léo qui souhaite connaître l'origine de l'expression « se réduire comme peau de chagrin ».
Expression de circonstance, hélas. À titre de préambule, je vous propose de découvrir une Syrie déjà violente, celle des Omeyyades.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Cela faisait longtemps que la Syrie était une terre chrétienne. Une terre chrétienne sous l'égide de l'Empire de Byzance. Alors, ça ne veut pas dire que Damas n'ait pas subi un certain nombre d'assauts, et notamment ceux des rois de Perse qui, au 7e siècle, ont envahi toute cette région, ont détruit complètement Alep et Antioche. Ils vont être chassés en 629 par l'empereur de Byzance qui rétablit sa suprématie sur l'ensemble de la région. Seulement, les Arabes sont là, qui gagnent du terrain, poussés par ce formidable élan que leur donne l'islam prêché par Mahomet. Ils sont apparus dès 633 aux frontières, et les troupes musulmanes, commandées par les successeurs de Mahomet, vont assurer peu à peu leur mainmise sur la Syrie et occuper la ville de Damas. Depuis la mort du prophète en 632, la jeune communauté musulmane est en plein désordre. Alors ça entraîne toutes sortes de scissions entre les partisans d'une succession au sein de la famille du prophète et ceux qui seraient favorables à une succession plutôt au mérite. Il y a une grande bataille qu'il faut toujours mentionner, c'est la bataille de Siffin. Elle a lieu en 657 et dans cette bataille, on voit s'opposer les partisans d'Ali, et Ali c'est le gendre du prophète, et les hommes de Muawiya, qui est le gouverneur de la Syrie. Et finalement, Ali sera assassiné en 661. C'est cette année-là, 661, qui voit Muawiya instaurer le premier califat héréditaire du monde islamique. On va l'appeler le califat Omeyyade. Pourquoi Omeyyade? Parce que la famille a été fondée par Omeyya. Omeyya était un noble de la Mecque, c'était le grand-oncle du prophète. La Syrie était donc, je vous l'ai dit, chrétienne. Elle reste d'ailleurs majoritairement chrétienne à cette époque. Elle était byzantine, elle devient Omeyyade. C'est le moment où s'installe donc ce califat Omeyyade avec Muawiya comme premier calife. C'est un calife respecté. Il fait partie de l'oligarchie. Vous savez, il est né à la Mecque. Sa famille a fini par embrasser l'islam après la conquête de la Mecque en 630. Et le prophète a accueilli ses anciens opposants, il les a accueillis chaleureusement, il leur a accordé un certain nombre de postes importants, et c'est dans ces conditions-là que Muawiya est devenu son scribe. Après la mort du prophète, Muawiya a rejoint l'armée musulmane, il a combattu donc contre l'Empire byzantin, et notamment dans cette Syrie qui a été arrachée à l'Empire byzantin. C'est un homme d'expérience, Muawiya. Il est donc gouverneur de Syrie, il va le rester pendant 20 ans. C'est lui qui réunit toutes les tribus de guerriers arabes assez anarchiques et qui en a fait une armée disciplinée, efficace. C'est lui qui a fait tomber Chypre et Rhodes notamment. Et selon Théophane le Confesseur, Muawiya a même vendu des restes du colosse de Rhodes à un marchand d'Éphèse qui les a transportés. Et pour transporter tous ces restes du colosse, il a fallu quelques 900 chameaux. On aurait bien aimé assister à cette scène assez extraordinaire. Alors, puisque Muawiya est gouverneur de Syrie, il décide de transférer la capitale de Médine à Damas. Damas a été fondée au 3e millénaire avant notre ère. C'est une très très ancienne cité qu'on retrouve dans la Bible, d'ailleurs dans le livre de la Genèse, qui est cité plusieurs fois dans le livre des rois et des prophètes. Elle est un des berceaux du christianisme, cette ville. C'est elle qui a vu Saint Paul se convertir et prononcer ses premières prédications. civilisation. Damas est une ville phare, c'est une ville carrefour, c'est un centre culturel et commercial grâce à sa position géographique entre l'Orient et l'Occident, entre l'Afrique et l'Asie. La ville est également le carrefour de nombreuses civilisations, hellénistiques, romaines, avec les vestiges du temple de Jupiter, des portes, des remparts romains, etc. Et puis, bien entendu et avant tout, byzantine. Alors, tout le début de ce califat omeyyade se caractérise par une certaine tolérance religieuse. On conserve cette majorité chrétienne et un certain nombre de postes importants au sein de l'administration califale sont confiés à des chrétiens dont certains appartiennent à des familles qui ont déjà servi dans l'administration byzantine. La prière du vendredi se fait dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Damas. Le calife Mouawiya emploie lui-même un secrétaire syrien de religion chrétienne. Enfin, voyez, il y a donc une espèce de grand mélange dans cette Syrie. Il faut dire que pour l'instant, les instances califales et l'envahisseur arabe est encore très minoritaire. Le grec, le persan continuent à être employés dans la gestion des affaires de l'Empire. Les non-musulmans sont autorisés à avoir leurs propres tribunaux, etc. Mais quand même, ce qu'il faut vous dire, c'est que malgré cette libéralisation, Mouawiya se sent un peu... Comment dirais-je ? Il a peur dans sa propre ville, peur d'être assassiné. On le voit qu'il fait installer dans les mosquées des petites guérites, les maksouras, pour que lui et ses accompagnateurs puissent faire leurs prières en toute sécurité. Il utilise des convois armés pour se déplacer. Il va nommer des gouverneurs dans les provinces, gouverneurs qui sont des hommes à sa main, notamment son frère adoptif qui est nommé gouverneur d'Irak. La Syrie connaît à cette époque une véritable ère d'expansion territoriale. Je parle de la Syrie arabe et islamique, bien entendu. La Crète est conquise. En Afrique du Nord, la ville de Kairouan est fondée. Les Omeyyades vont aussi s'emparer d'une partie de l'Asie centrale, jusqu'à Kaboul et même à Samarcande. Et en 672, Mouawiya, qui a 70 ans, pense à sa succession. À ce moment-là, il va surprendre son entourage. Il refuse le système de l'élection. Il veut une succession héréditaire afin d'éviter de nouvelles divisions. « J'ai vieilli, mes os ont faibli, écrit-il au gouverneur de Médine, et je crains la division dans la communauté après moi. Je pense donc nommer celui qui me succédera. Je ne voudrais pas décider de quelque chose sans consulter ceux qui sont auprès de toi. Présente-leur donc cela et fais-moi savoir ce qu'ils te répondront. » Mouawiya propose le nom de son fils Yazid pour lui succéder et à sa mort, il est mort d'un accident cérébral, vous savez, il a fait un AVC comme nous dirions nous aujourd'hui. À sa mort, c'est donc son fils qui lui succède. Alors là, c'est une période d'instabilité. Il y a un opposant notamment très puissant qui s'appelle Hussein qui va rejoindre la ville de Koufa en Irak pour soutenir la révolte et sur le trajet, il croise une caravane transportant les impôts du Yémen vers Damas. Il décide de rejoindre Karbala, mais là, ces 72 hommes doivent faire face à 120 000 hommes de l'armée omeyyade. C'est un véritable massacre. Le premier tué est un enfant de 10 ans hein, qui est, dit-on, coupé en deux d'un coup de sabre. Puis un des fils de Hussein est atteint d'une flèche à l'oreille. Lui-même est en fuite. Il est épuisé, il a soif, il veut boire dans l'Euphrate et c'est à ce moment-là qu'une flèche l'atteint à la bouche. 7 ou 8 hommes se jette sur lui et l'un d'entre eux le transperce de sa lance. Un autre va le décapiter. C'est la fin de Hussein. À partir de ce moment-là, le califat omeyyade, si je puis dire, est installé et ça va être le début des grandes constructions architecturales.
De l'histoire sur Europe 1 et on vous retrouve Franck Ferrand pour la suite de votre récit sur le califat omeyyade.
Le califat de Damas ne s'installe vraiment, ne devient une puissance qu'avec Abd al-Malik, qui arrive au pouvoir en 685. Lui va se rendre célèbre par l'arabisation des registres publics de l'État. Il fait de l'arabe la langue officielle. Et l'on peut dire que c'est sous son règne que le califat omeyyade devient le théâtre de réalisations majestueuses, des réalisations architecturales incroyables. La plus spectaculaire, c'est le dôme du Rocher à Jérusalem, bien entendu, premier sanctuaire islamique occidental. Plus tard également, on verra Abd al-Malik faire rénover la mosquée du prophète à Médine. Alors, en Syrie, il y a également de grandes réalisations, même si assez peu de vestiges de cette époque sont demeurés en place. On peut dire que la Syrie en général, et Damas tout particulièrement, deviennent à ce moment-là le berceau de l'art islamique. Un géographe arabe très célèbre, Al-Muqaddasi, écrit « Damas renferme les vestiges des palais omeyyades, constructions de bois et de briques crues. La ville est entourée de fortifications, elle aussi en briques. La plupart des marchés sont couverts. C'est un pays sillonné de cours d'eau, cerné d'arbres, où les fruits abondent, où les tarifs sont bas. Il peut y neiger et on y trouve des produits des deux hémisphères. On ne voit nulle part des bains aussi beaux et des fontaines aussi merveilleuses. » Et c'est vrai que cette Damas du califat omeyyade à l'époque d'Abd al-Malik a fait rêver, bien sûr, les poètes et les romanciers. Les mosaïques, les peintures murales, les sculptures de stuc, tout ça est extraordinaire, avec des châteaux du désert aux fonctions variées. Ça peut être des petits pavillons de chasse auxquels s'adjoint un bain, ça peut être des villas groupées à l'intérieur d'une enceinte, des châteaux de plaisance avec hammam, mosquée, caravansérail, etc. C'est tout l'Orient, ce sont les mille et une nuits là, qui déjà nous font rêver. Mais le bâtiment le plus important, le plus spectaculaire de cette période, de ce règne d'Abd al-Malik, c'est la grande mosquée des Omeyyades au centre de la vieille ville. Elle est bâtie à partir de 706 et ce sera cette grande mosquée la réalisation principale du règne de Al-Walid, Al-Walid Ier. Alors au départ, n'oubliez pas que c'était un temple romain qui était devenu une église byzantine, l'église Saint-Jean-Baptiste. D'ailleurs, certains murs du temple romain sont restés dans la mosquée. Vous avez des propylées, vous avez des tours qui ont été utilisées comme minarets et on a également conservé un certain nombre de restes de l'église, notamment un clocher qui est devenu le minaret. C'est un cas unique. Il y a dans cette mosquée un tombeau chrétien, celui de Saint Jean-Baptiste. La mosquée va devenir en quelque sorte l'archétype de la mosquée arabe classique, 157 mètres de long sur 97 mètres, une cour entourée de portiques décorés de mosaïques à motifs végétaux et architecturaux, une salle de prière divisée en trois nefs parallèles, coupées en leur milieu par une travée perpendiculaire. La façade de la salle de prière, celle qui donne sur la cour, est ornée de mosaïques à fond d'or. Une des mosaïques mesure quand même 35 mètres sur 7. Vous voyez un petit peu le caractère monumental de tout ça. Ce sont des mosaïques à fond d'or d'influence byzantine, évidemment, et pour cause. Voilà ce que nous dit Ibn al-Hamadani dans son abrégé du Livre des Pays au 9e siècle. On a dit qu'il y avait quatre merveilles au monde. Le pont de Sanja en Syrie, le phare d'Alexandrie, l'église d'Édès, bien sûr, en Syrie, et la mosquée de Damas. Elle est construite en marbre et mosaïque, couverte de bois de teck, ornée de lapis lazuli et d'or. Le mihrab est incrusté de joyaux précieux et de pierres merveilleuses. Cette mosquée n'a pas servi qu'à pratiquer la religion, elle a aussi servi d'école, voire d'université, puisque énormément de grands cours y ont été dispensés. Et l'on peut dire que par ses dimensions, par sa splendeur, cette grande mosquée de Damas va devenir l'épicentre du monde musulman. Elle va servir de modèle à la grande mosquée d'Alep, qui est construite pour sa part à partir de 715, mais aussi à toutes sortes de mosquées, notamment celles qui seront construites bientôt en Andalousie. La grande mosquée est ce que les musulmans ont de plus beau aujourd'hui, écrit Al-Muqaddasi. C'est la plus sublime mosquée du monde par sa splendeur, la plus admirable par sa beauté, sa grâce et sa perfection. On dit que le calife Al-Walid réunit pour cette œuvre des spécialistes persans, hindous, maghrébins et byzantins.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Une grande dynastie de califes arabes en Syrie est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous évoquez le califat omeyyade.
Désormais, en ce milieu du 8e siècle, on peut dire que les étendards blancs et or du califat omeyyade flottent sur un gigantesque empire. Ça s'étend très loin à l'est jusqu'à l'Indus et très loin à l'ouest aussi, puisque désormais la péninsule ibérique est entièrement aux mains du califat omeyyade. Ça passe par l'Arabie, par le Yémen, le nord de l'Égypte, tout le nord de l'actuel Maghreb. Ce sont les mêmes omeyyades qui seront arrêtés un jour, en 732, par Charles Martel à Poitiers. Mais même s'ils sont arrêtés à Poitiers, vous voyez l'immensité de cet empire. Ça représente 13 millions de kilomètres carrés. C'est extrêmement difficile à gérer un empire de cette taille-là, surtout lorsqu'il s'est constitué en très peu de temps. Il est évident que tout cet empire ne peut pas être constitué uniquement de musulmans. Les musulmans arabes dominent la société, dominent l'empire, mais vous avez toutes sortes de religions qui continuent d'être pratiquées dans l'empire. En 743, un nouveau calife, Al-Walid II, prend le pouvoir, lui préfère les plaisirs à la religion, on peut le dire. C'est un homme qui va fort, hein. Il n'hésite pas à tuer tous ceux qui essaient de lui résister. Et dès 744, Yazid III, le réducteur, il tient son surnom du fait que de sa décision de réduire les rentes militaires de 10%, ce Yazid III, qui est le fils d'Al-Walid Ier, est proclamé calife à Damas. Il va attaquer Al-Walid II, il va le tuer et lui-même meurt 6 mois après son accession au pouvoir. C'est son frère Ibrahim qui est désigné successeur, mais Marwan, qui est le petit-fils de Marwan Ier, va marcher sur Damas en décembre 744 avec une armée de la frontière du Nord. Il va prendre le pouvoir à Ibrahim, il se proclame calife à son tour. Si j'ose dire, calife à la place du calife. C'est Marwan II qui prend la décision de déplacer la capitale de Damas à Harran, en Mésopotamie. On est au sud-est de l'actuelle Turquie. Harran est une ville qui a été au centre de l'ancienne idolâtrie mésopotamienne, si l'on en croit les auteurs arabes classiques, et ça fait des siècles qu'on y vénère la lune, le soleil, les planètes, etc. Eh bien, à Harran, Marwan II va faire construire une grande mosquée monumentale avec son minaret de 33 mètres de haut, mosquée construite sur l'emplacement du vieux temple païen dédié au dieu Sin. Et dans le même temps, Marwan fait détruire les murs de Damas. Il s'agit bel et bien pour lui de déplacer complètement le centre de gravité de l'empire. C'est le début de la fin pour la Damas des Omeyyades. C'est à cette période que dans le nord de la Syrie s'organise un certain nombre d'opposants. On va les appeler les Abbassides. Ce sont des descendants de l'oncle du prophète. Si les Omeyyades ont des étendards blancs, les Abbassides brandissent des étendards noirs. Et ce sera désormais les hommes du noir contre les hommes du blanc, si je puis dire. Marwan II, à la tête de l'armée Omeyyade, va tenter d'arrêter ces Abbassides, mais qui arrivent comme une véritable marée. En janvier 750 a lieu une bataille décisive. On est là sur les bords du fleuve le Grand Zab, hein, qui est un affluent du Tigre en Irak. Les Abbassides vont finalement l'emporter. Damas est prise et ils vont à ce moment-là faire de la Syrie une simple province, ces Abbassides, puisque leur capitale à eux, ce sera évidemment Bagdad. À partir de là, on peut parler de la fin du califat omeyyade après 89 ans de présence en Syrie et 12 califes successifs. Vous aurez remarqué que les derniers califes se succèdent quand même à un rythme effréné. Alors ça ne s'arrête pas là néanmoins, puisque Abu al-Abbas, qui est le nouveau calife, veut absolument anéantir tout ce qui reste des Omeyyades. Alors il commence par faire ouvrir les tombes des califes, par faire brûler leurs cadavres, vous voyez un petit peu si c'est sympathique. Et puis lorsque la paix survient, il fait semblant de pardonner aux survivants Omeyyades et il les invite à un grand festin à Damas, un grand banquet de réconciliation. Certaines personnes nous disent qu'il y avait, certaines sources nous disent qu'il y avait 40 personnes présentes, d'autres qu'il y en avait 80. En tout cas, c'est un grand banquet fastueux, un des plus extraordinaires qu'ait connu Damas. Et soudain, sur un signal secret, des hommes en armes envahissent la salle du banquet et ils vont massacrer tous les Omeyyades. C'est un bain de sang absolument terrible. Des messagers sont dépêchés pour assassiner tous les derniers survivants. Ensuite, on fera étendre sur les corps un tapis de cuir sur lequel on sert un repas à ceux qui assistent à cette scène et qui vont manger pendant que les victimes agonisent. Vous imaginez la cruauté, la sauvagerie de tout ça. La lignée des Omeyyades vient donc de s'achever dans le sang. Désormais, le nouveau calife sera surnommé Al-Safa. As-Safa, ça veut dire le sanguinaire. Lors de ce massacre, un prince de 19 ans a néanmoins réussi à survivre. Mieux que ça, il s'est enfui, il s'est faufilé comme ça le long de la muraille, il a réussi à s'enfuir. Ce jeune homme, il s'appelle Abd al-Rahman, c'est le dernier des Omeyyades de Syrie. Cet Abd al-Rahman, on va en reparler, puisque c'est lui qui va se rendre en Afrique du Nord, puis dans la péninsule hispanique, où il rassemblera des tribus alliées et il parviendra à conquérir Séville en 750. Puis à établir à Cordoue un émirat indépendant du nouveau califat abbasside. Un parfum d'Orient s'est emparé de ce studio, non seulement à travers la dynastie des Omeyyades que nous venons d'évoquer, mais parce que mon invité d'aujourd'hui connaît mieux que quiconque la Syrie et sait en parler. Bonjour Myriam Antaki.
Bonjour, merci de m'inviter. Je suis ravie de parler de mon pays qui me manque énormément, mais on va essayer de faire quelque chose ensemble.
Et nous allons essayer le temps d'une heure de le ressusciter en quelque sorte.
J'espère bien.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le califat Omeyyade et Damas sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, la romancière syrienne Myriam Antaki, auteure du livre La rue de l'Ange, paru aux éditions Éric Bonnier.
Alors Myriam Antaki, un mot peut-être de cette période des Omeyyades, tellement privilégiée dans l'histoire de la Syrie et de Damas en particulier, puisque le califat installe en quelque sorte la capitale à Damas.
Alors la période des Omeyyades est une brillante période dans l'histoire de Damas. D'une part, les Omeyyades arrivent du désert et réalisent tout de suite qu'ils avaient beaucoup à apprendre d'une civilisation qui avait hérité l'hellénisme, l'ordre romain, la splendeur de Byzance.
C'est ça.
Et ils ont l'intelligence, ils ont l'attente de vouloir découvrir et apprendre.
Ils sont minoritaires. Les musulmans sont minoritaires à l'époque.
Il n'y a presque pas de musulmans à l'époque. Ils arrivent, la Syrie est chrétienne. Et après un long siège, ce sont les chrétiens de Damas qui ouvrent les portes à l'islam parce qu'ils étaient un peu fatigués des abus de Byzance. Il faut dire les choses comme elles étaient. Et alors, les Omeyyades très vite tombent amoureux des verdures, parce que Damas, à l'époque, est la plus belle oasis du désert. Elle a de très beaux vergers, elle a des fontaines, de l'eau. Et c'est alors que Mouawiyah, qui est le plus grand calife des Omeyyades, décide de faire de Damas sa capitale. Et il bâtit ce palais des Omeyyades qui n'a malheureusement pas laissé de traces. Il l'appelle Al-Khadra, c'est-à-dire la verdure, pour dire la fascination de ces hommes du désert devant la fertilité du fleuve. Alors,
devant les lieux ombragés,
oui,
devant
l'ombre, les allées ombragées.
Le végétal.
Oui, absolument.
C'est tout un art de vivre qui naît à cette époque.
Absolument. Et alors, bien sûr, je ne vous cacherai pas, ça rejoint un peu le sujet de mon roman, la contribution des chrétiens à l'édification de cet empire d'Allah qui voulait croître, qui voulait se développer. Et peut-être je m'arrêterai juste un moment pour dire que la grande conquête n'a pas connu la violence que nous voyons aujourd'hui. Il y a eu tout de même eu un respect des gens du livre qui étaient les chrétiens et les juifs qui payaient la dîme. Il y a eu beaucoup d'excès. Mais aujourd'hui,
on est très loin des excès qu'on peut connaître aujourd'hui.
On est très loin de ce qu'on est en train d'affronter aujourd'hui.
Alors pour comprendre d'où vient cette civilisation syrienne, d'où viennent ces chrétiens, il faut remonter très loin. On va même remonter, si vous le permettez, encore plus loin, puisqu'il faut dire que Damas est une très ancienne cité. Elle fait partie de ces cités très antiques du Moyen-Orient, oui, qui puisent leurs racines dans la nuit des temps.
C'est ça, elle a une légende mythique qui est d'être la plus ancienne ville du monde. Mais alors, je ne peux pas avancer des dates parce que ça reste très flou dans le passé.
C'est difficile à dire.
C'est difficile.
On est au troisième millénaire, disons.
Oui, oui, mais la Syrie est beaucoup plus vieille que trois millénaires avant Jésus-Christ. Elle est immensément vieille, ou plutôt immensément riche. Et je crois que, je ne sais pas où vous voulez que je commence. Damas est très ancienne, surgit bientôt le christianisme en 34, juste après la mort du Christ, et les chrétiens jusqu'à l'arrivée de l'islam.
Alors cette période chrétienne, on connaît bien entendu l'épisode du chemin de Damas, la conversion de saint Paul, bien entendu, qui va jouer un rôle essentiel dans la naissance même de l'Église. Que fait saint Paul à Damas ?
Alors l'histoire de saint Paul est merveilleuse, je ne suis pas sûre qu'elle est aussi vraie qu'on ne la raconte. Saint Paul arrive à Damas en 34, il est un juif de Cilicie, il s'appelle Saul. Et alors il reçoit une illumination aux portes de Damas. Et il devient chrétien, je vous fais l'histoire très très courte. Et alors, passe en français l'expression « trouver son chemin de Damas ».
Ah oui. Ou alors, la conversion, l'illumination subite.
L'illumination, absolument. Ou alors, la rue droite, la Via Recta, qui est encore là où vivent toujours les chrétiens de Damas. Et puis la Syrie est chrétienne. En 380, l'empereur Théodose reconnaît le christianisme comme religion de l'Empire et on a bâti des églises et des monastères et des baptistères. C'est un âge d'or pour les chrétiens d'Orient. Et aussi, c'était une période de ferveur avec des anachorètes, des ascètes. Il y a par exemple...
Des mystiques de divers ordres.
Oui, c'est une très belle période.
Cette période chrétienne va donc durer 6 siècles. C'est très important.
Jusqu'à 635, l'arrivée de l'islam.
Avec quels vestiges encore visibles aujourd'hui ?
Il y a de très beaux vestiges chrétiens en Syrie. Il y a surtout dans la région d'Alep beaucoup d'églises byzantines. Il y a l'église de Saint-Siméon qui a vécu 40 ans au haut d'une colonne.
Bien sûr, oui.
Et puis, jusqu'à maintenant, la présence chrétienne en Syrie. Damas est connue pour les patriarcats, pour les évêchés. Il y a de très belles églises avec des icônes sublimes. Il faut pas croire que c'est loin dans le temps. C'est encore présent. Peut-être beaucoup de choses sont en train d'être détruites. Mais moi, de mon enfance, même avant de quitter mon pays, à peine quelques grands mois que je trouve éternels, mais les chrétiens étaient omniprésents, ils menaient une vie normale, et puis ça a été la guerre.
Vous parlez là de ces dernières années. Oui. Vous vivez au Liban depuis 3 ans maintenant.
Oui.
Vous espérez pouvoir rentrer en Syrie le plus tôt possible, bien entendu.
Oui, enfin, vous savez, on déménage son pays partout, parce que notre pays est en nous, et il nous donne la force d'aimer ailleurs, parce que quand on n'aime pas son pays, on n'aime pas un autre pays. Mais j'aimerais y revenir dans mon pays. C'est une mer, la terre est une mer.
Et c'est tout un univers que vous faites vibrer au fil des pages de cet ouvrage dont vous avez dit tout à l'heure que c'est un roman, La rue de l'ange. En fait, moi j'appellerais pas ça un roman, j'appellerais ça plutôt une sorte de grand récit. C'est une longue déclaration d'amour à Damas à travers un personnage, Magda. D'où sort-il ce personnage et qui est-il ?
Alors écoutez, l'idée du livre était de raconter les histoires qu'on nous répétait enfant, parce que on nous interdisait de regarder la télévision aussi, c'était une sorte d'éducation austère. On nous racontait des histoires. J'ai voulu les raconter à mes enfants, mais petit à petit, j'ai trouvé que l'ossature n'était pas suffisante. J'ai eu de grandes références historiques et je les ai embellies. J'ai voulu écrire comme un conte qui traversait 20 siècles et pour créer une cohérence, je devais inventer un personnage qui pouvait exister 20 siècles durant.
Et renaître constamment.
Et renaître constamment, parce que après tout, c'est un personnage de l'amour, un personnage de la sexualité. Et je voulais montrer que Damas n'était pas seulement une vie mystique, la ville de Saint-Paul, mais qu'elle était une ville charnelle. Et c'est ça l'idée, de présenter ces deux phases de Damas, qui est une ville très complexe. Et peut-être que j'ai réussi.
Je crois que vous avez réussi.
Et j'ai pensé à Magdala, Magdala qui est Marie-Madeleine, parce que aussi j'ai pensé en chrétienne d'Orient que le Christ est le seul prophète qui avait pardonné à la femme adultère. Voilà. Oui.
Cette Marie-Madeleine, vous la faites vivre à des époques différentes. Donc, la ville de Saint-Paul va, après 6 siècles de christianisme fervent, va s'ouvrir à l'islam. On est en 635. Ça, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. C'est le début de l'islamisation de toute cette région. La dynastie des Omeyyades dont nous parlions, qui a été un moment extraordinaire, non seulement du point de vue des constructions, de l'art, du développement, mais aussi du point de vue de la tolérance religieuse, de la coexistence des religions. Il faut parler des juifs de Syrie également,
oui.
Ils sont là.
Vous savez, c'est très important. Quand on parle des gens du livre, on parle des chrétiens et des musulmans. Et au moment où les chrétiens étaient dans de mauvaises situations, les juifs étaient dans de mauvaises situations. Mais les Omayyades ont beaucoup aimé les chrétiens parce que Muawiya a fini par épouser une chrétienne. Mmh. Il avait des conseillers, des ministres chrétiens. Beaucoup de chrétiens étaient dans l'armée. Et les chrétiens faisaient aussi un travail de traduction. Ils étaient intellectuels. Et c'était une très bonne osmose entre le christianisme, la chrétienté et le judaïsme, puisque Damas est tracé sur trois axes principaux. Il y a la rue juive, au centre la rue Via Recta qui est la rue chrétienne, la troisième est la rue musulmane où a été enfin bâtie la mosquée des Omayyades qui, on disait à l'époque, c'est la plus belle mosquée du monde, elle va vivre jusqu'à la fin des temps. Elle va subsister jusqu'à la fin des temps, ça fait partie des légendes. De ces beaux bâtiments, c'est le calife Al-Walid qui avait bâti la mosquée des Omayyades.
On est toujours saisi de voir à quel point un pays qui incarnait pendant tant de siècles une forme de douceur, de raffinement très particulier, qui, disons-le, incarnait l'Orient, car c'est l'Orient qui s'incarne, non seulement à Damas, mais dans un certain nombre d'autres cités de Syrie. On pense à Alep, bien entendu, très naturellement. C'est toujours étonnant de voir que tout ça puisse basculer dans l'extrême violence et qu'aujourd'hui le nom même de la Syrie soit assimilé immédiatement à des images de guerre, et de guerre parmi les pires qui soient, puisque c'est une guerre civile, c'est une guerre fratricide. Je ne veux pas vous demander votre analyse politique de la situation, Myriam Antaki, mais est-ce que vous voyez des lueurs d'espoir dans ce qui est en train de se passer ?
Le tableau est très sombre pour le moment et je ne vois pas d'éclaircie immédiatement. Mais vous savez, la Syrie a toujours pu renaître de ses cendres, mais pour le moment, elle est sur la pente qui tombe, je crois. Il faut attendre.
Il faut attendre et en attendant...
C'est la destruction totale. Mais il y a une guerre qui n'est pas vraiment aussi la guerre de Syrie. Aujourd'hui, pour rejoindre en quelque sorte les Omayyades, c'est la guerre des sunnites contre les chiites. Et vous savez que c'est le fils de Muawiya Yazid qui avait assassiné Al-Hussein et les membres de la famille du prophète. Et de là a été issu
ce divorce intime.
Et les chiites ont pu être tout à fait séparés des sunnites. Et nous vivons aujourd'hui de nouveau cette guerre.
Alors en 1148 arrivent les croisés. Et ça, c'est encore un autre chapitre. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de Damas en Syrie, avec vous Franck Ferrand cet après-midi et avec votre invitée, la romancière syrienne Myriam Antaki, auteure du livre « La rue de l'ange » paru aux éditions Éric Bonnier.
Au milieu du XIIe siècle, cette ville de Damas, qui avait connu toutes les vicissitudes que j'ai racontées tout à l'heure, est la proie, si je puis dire, de nouveaux envahisseurs. Alors ceux-là, ce sont des chrétiens, pour le coup. Mais ce ne sont pas les mêmes que les chrétiens qui vivaient là depuis des siècles, Myriam Antaki.
Alors ce sont les croisés. Vous savez qu'il y a eu un calife fou qui avait détruit l'église du Saint-Sépulcre. Et Urbain II, le pape Urbain II, avait appelé aux croisades. Les croisades ont pris Jérusalem, puis à un moment donné, il y a eu le siège de Damas durant plusieurs mois, mais les croisés n'ont pas pu entrer à Jérusalem. Cette rencontre entre Orient et Occident fut au début un vrai désastre, parce qu'il y a eu beaucoup de violence lors de la prise de Jérusalem. Mais peut-être ce serait intéressant de signaler un prince syrien qui avait écrit ses mémoires pour dire ce que pensaient ces Syriens. Les croisés ne réalisaient pas à l'époque, au Moyen-Âge, l'Empire musulman véhiculait la plus brillante civilisation. Alors il est choqué par déjà le manque d'hygiène de ces croisés, dont l'hygiène était, disons, très primitive. Il est choqué par leurs relations avec la femme, des relations trop permissives. Et puis petit à petit, les deux mondes allaient se toucher et bientôt... Il va y avoir, une civilisation va irriguer d'autres, les croisés vont apprendre le hammam, les croisés auront recours à la chirurgie esthétique pour s'améliorer, les croisés joueront au zahar qui deviendra le hasard en français. Ils apprendront beaucoup de choses de l'Orient, la fabrication du papier, ils apprendront la technique du pigeon voyageur. Et ils emporteront avec eux, surtout quand ils rentreront chez eux, un très beau rêve d'Orient qui continuera à les hanter.
C'est-à-dire que tout l'exotisme occidental, tel qu'il va se développer par la suite, à partir du 15e, 16e, 17e siècle, il est né de là. Il a été rapporté, en quelque sorte,
par les croisés
qui sont restés éblouis par les parfums de roses et d'encens, par ce qu'on imagine de l'Orient.
Enfin, on peut parler des heures sur les croisades, mais vous savez, c'est une période où les chrétiens ont été dans une très mauvaise situation, parce que les croisés les considéraient comme chrétiens de second niveau et les musulmans les considéraient comme les alliés naturels aux envahisseurs. Alors ils ont traversé une très mauvaise période, à part les maronites de la montagne du Liban qui ont carrément été les alliés des croisés.
Alors ces croisés, le moins qu'on puisse dire est que leur présence dans toute cette région, en Terre Sainte et puis d'une façon plus générale dans ce Moyen-Orient, va être difficile, avec des allées, des retours, avec des chutes successives.
Ils ont bâti des châteaux d'une beauté souveraine.
Le fameux krak.
Souveraine. Et les plus beaux sont en Syrie. Il y a le krak des chevaliers et il y a le château de Saône qui est devenu le château de Saladin. Je le préfère presque au krak des chevaliers parce que les choses plus cachées sont plus intéressantes.
Et vous savez en parler, des choses cachées, de la pénombre, de la douceur. Il y a une forme de langueur même qui s'attache à cette région.
Oui, il y a une langueur, mais c'est comme ça que c'est très rangé. Si elle va être aussi énergique que les États-Unis, par exemple, ce ne sera plus l'Orient, ce ne sera plus cette essence de vie, cette qualité de vie, ce rêve qui, en fin de compte, a fini par attirer tous les étrangers. C'était devenu la mode du voyage en Orient aussi.
Exactement. Ouais. Alors ce voyage en Orient, il va se développer nettement plus tard, à partir de la fin du XVIIIe siècle. Oui. Mais à cette époque, on est sous l'emprise, sous le joug du sultan de Constantinople. C'est-à-dire que ce sont les Ottomans qui sont maintenant les maîtres.
Savez, les Ottomans ont véhiculé une brillante civilisation. C'était une civilisation d'Orient, d'Occident. Ils étaient turcs, ils étaient arabes.
Un peu à mi-chemin des deux, finalement.
Ils ont fait le pont entre trois continents. Moi, j'ai un grand émerveillement auprès de la civilisation ottomane. Je sais que la Syrie a été 4 siècles sous l'Empire ottoman et qu'elle a beaucoup enduré. Mais aussi, ça a été une période de très bonnes relations avec la France, puisqu'il y a eu la loi des capitulations entre Soliman le Magnifique et François Ier. Et puis, ça a ouvert les portes de la France. Et à la suite, la France était devenue protectrice des chrétiens d'Orient. Chose qu'elle a oubliée aujourd'hui.
Cette France, elle va apparaître dans le paysage syrien, dans le ciel de Damas, un peu plus tard. Revenons peut-être à cette période ottomane qui dure elle aussi des siècles. Comment Damas défend-elle sa spécificité face au modèle ?
Damas a eu une très grande chance durant cet empire ottoman, parce que d'habitude, les walis, les gouverneurs, venaient un an, pillaient une ville et partaient. Or, Damas, le wali, le gouverneur de Damas, menait la caravane à la Mecque. C'est ce qui a fait la grande différence de Damas avec les autres villes de l'Empire ottoman. Et alors, il était élu à vie, il était très puissant, et vraiment une ville d'où partait le pèlerinage à la Mecque était une ville de grande richesse, à cause des marchandises, à cause des échanges, à cause surtout de toutes ces nationalités qui venaient du bout du monde. Et tout ça faisait une ébullition très impressionnante.
Avec la force des Mamelouks qui s'imposent aussi, petit à petit.
Oui, mais les Ottomans ont laissé des bâtiments, surtout le plus beau des bâtiments de Syrie, ottoman, c'est la tekiyé qui a été faite pour recevoir les pèlerins qui allaient à la Mecque. C'est très beau. Toujours ces minarets très effilés, des formes verticales, mystiques, aériennes. L'architecture ottomane est fabuleuse.
Que l'on parle de la très antique cité qui préexiste à Damas, qu'on évoque les siècles de chrétienté byzantine, qu'on parle évidemment de cette civilisation omeyyade par laquelle nous avons commencé aujourd'hui, qu'on évoque les différents chapitres de l'histoire ottomane, et puis bien sûr le passage des croisés. Bref, à chaque fois on a l'impression que Damas reste au cœur de la situation, qu'elle surmonte les épreuves. Il n'y a pas de pauvreté à Damas, on a l'impression d'une espèce de profusion permanente.
En fait, c'est vrai, Damas a été une ville de grande profusion, peut-être à cause du pèlerinage à la Mecque, parce que ça faisait, vous savez, la spiritualité, surtout à l'époque, nourrissait beaucoup de choses, engendrait beaucoup de choses. C'était tout à fait un autre rapport entre l'homme et sa spiritualité et sa religion. Et oui, mais enfin, tout le monde n'était pas très nantis à Damas, mais n'empêche, c'était une vie de prospérité, de verdure, de jardin. C'était une ville qui faisait rêver.
À l'heure où les Mamelouks commençaient leur lente chute, l'étoile de Damas pâlissait, écrivez-vous cependant. À ses portes vinrent à nouveau les Mongols avec Tamerlan, et la ville entra dans un grand deuil, pillée, incendiée, vidée de ses hommes. Ses artistes, ses architectes, ses travailleurs, la plupart des chrétiens, furent déportés à Samarcande, et elle vit en silence périr son âme créative. Un autre sort s'acharna sur ses verdures quand, un siècle plus tard, ses caravanes ruisselantes d'or et de beauté prirent d'autres routes, car la découverte du Cap de Bonne-Espérance détourna vers le midi la route des Indes. Il ne resta pour sa gloire que celle du pèlerinage vers la Mecque, dans lesquels, étonnement, juifs et chrétiens demeuraient toujours actifs. La ville s'appauvrit lentement comme une femme vieillie en voulant l'ignorer. Il n'y a pas eu que des épisodes heureux et simples dans cette ville, dans cette existence tourmentée.
C'est tout un chemin de crête. Mais c'est comme ça, c'est l'histoire des villes. C'est comme ça qu'elles prennent le rite, c'est comme ça qu'elles renaissent. Moi, je trouve que l'histoire de Damas est fascinante. Elle incarne, ou peut-être, puisqu'on parlait des Omayyades, si on pensait à cette mosquée des Omayyades, elle était le temple de Hadad, le dieu du temps, puis elle est devenue le temple de Jupiter des Romains, puis elle est devenue l'église de Saint-Jean-Baptiste, et puis elle est devenue la mosquée des Omayyades. C'est pas un millefeuille, parce que c'est pas toujours très doux, mais il y a une telle superposition dans la ville de Damas, oui, de passage.
Ça donne un peu le vertige, c'est le fameux syndrome de Stendhal. On a l'impression, oui, d'une épaisseur du temps et d'une, oui, présence des siècles. C'est assez extraordinaire. Alors vient l'époque de la colonisation, hein, le début du XXe siècle, et la présence française notamment.
Alors souvent on dit que tout ce qui passe aujourd'hui a été à cause du mauvais partage de l'Empire ottoman. Il y a eu le partage Sykes-Picot, il y a eu la promesse de la création d'un foyer des Juifs. Et souvent maintenant on repense l'idée qu'on aurait dû partager cet empire d'après les communautés religieuses. Vous savez, on croyait au nationalisme, on croyait à la laïcité, on croyait à la vie intercommunautaire. Moi, je regrette qu'on soit résolu à aller vers un partage confessionnel. Mais la France est arrivée donc en 1920. C'était une très belle période pour la francophonie, pour les écoles, comme les familles chrétiennes étaient très francophiles aussi. Mais elle a formé des générations qui étaient élevées dans les écoles françaises, qui venaient en France pour compléter leurs études à Paris et ailleurs. Étonnamment, ces élites qui étaient tout à fait francophones et qui fermaient l'élite sociale et intellectuelle, allaient finir par être l'élite politique nationaliste qui allait mener la Syrie à l'indépendance. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Vous savez, ils avaient profité, tous ces jeunes, de l'enseignement cartésien, de l'ouverture, de l'esprit critique, et ils se sont dit, bon, la Syrie a droit à son indépendance.
Eh oui, bien sûr.
C'est comme ça que ça s'est passé.
La rue de l'Ange de Myriam Antaki, c'est ce long récit plein de substance, empreint d'une poignante nostalgie que vous nous offrez dans la collection Encre d'Orient chez Éric Bonnier. Merci beaucoup Myriam Antaki, et je vous prie de croire que nous croisons les doigts pour l'avenir de la Syrie et pour le vôtre bien sûr.
Je vous remercie.
Vous écoutez Au cœur de l'histoire et on se retrouve dans un court instant sur Europe 1 et vous répondrez Franck Ferrand à la question de Léo sur l'origine de l'expression « se réduire comme peau de chagrin ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est Léo qui vous pose une question ce lundi après-midi, Franck Ferrand, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Léo vous demande d'expliquer l'origine de l'expression « se réduire comme peau de chagrin ».
Alors, disons-le tout de suite, ce chagrin de l'expression « se réduire comme une peau de chagrin » n'a rien à voir avec le chagrin dont on parle, avec l'émotion, avec la tristesse. Une peau de chagrin, au départ, c'était une sorte de parchemin. Vous savez, le chagrin en question vient du mot turc « sagri ». On parle ici de la croupe d'un animal et par extension de sa peau, surtout essentiellement de la peau d'âne ou de mule. On parlait d'ailleurs au XVIe siècle d'une peau de sagrin qui venait de Sagri. Et c'est le parler populaire qui peu à peu s'est mis à parler de peau de chagrin en raison de sa solidité, de son élasticité. On utilisait surtout cette peau pour la confection de tambours, de chaussures, pour la confection de reliures de livres également. Et c'est Balzac, Honoré de Balzac, qui à partir de ce terme va être à l'origine de l'expression, puisque en 1831, il publie La peau de chagrin, une œuvre qui fait partie de son grand ensemble de la comédie humaine, bien entendu. C'est le premier ouvrage notable de Balzac, cette peau de chagrin. C'est un talisman, vous savez, avec une propriété bien particulière, puisqu'elle permet à son porteur de voir ses vœux exaucés. Seulement, à chaque fois qu'il y a un désir qui est réalisé, eh bien, la peau elle-même vient à diminuer tout en rongeant progressivement la vie de son propriétaire qui mourra en même temps que la peau disparaîtra, c'est-à-dire au moment où le dernier désir aura été satisfait. Alors, le porteur abuse du pouvoir de cette peau, il va accumuler inconsidérément les richesses. Il mourra dans la pauvreté néanmoins et dans la solitude, obsédé par la peau qu'il voit inéluctablement se réduire, car il répète sans cesse le vœu de rester en vie même quand la peau aura disparu. Vous voyez l'ampleur du paradoxe, c'est l'origine de l'expression « se réduire comme peau de chagrin ». C'est en quelque sorte un hommage indirect à Balzac.